France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Brière. Le 22 avril 1901, près de Chartres, cinq enfants, tous frères et sœurs, âgés de 4 à 15 ans, sont retrouvés assassinés dans la ferme familiale. Le père de famille, un paysan, veuf, sans histoire, comme d'habitude dans ce genre d'histoire, est découvert non loin de là, à demi-conscient, au bord de la route. Face aux gendarmes, il affirme avoir été attaqué par des vagabonds. Seulement voilà, la scène du crime raconte un tout autre scénario. Et au bout du compte, l'homme est reconnu coupable et condamné à mort avant d'être gracié et envoyé au bagne en Guyane, cet univers terrible qu'on appelle la guillotine sèche, où l'espérance de vie moyenne ne dépasse pas 3 à 5 ans. Une autre peine de mort, à petit feu, pour beaucoup. Énigme judiciaire hors norme, mêlant instruction chaotique, expertise médicale contestée, campagne de presse, rebondissements politiques et même des échos inattendus de l'affaire Dreyfus, le dossier Brière est un miroir de la France rurale du début du XXe siècle avec ses tensions, ses peurs et ses injustices. Notre invité aujourd'hui, Alain Denizet, historien, spécialiste du XIXe siècle, conférencier, écrivain. Il a tenté de percer les derniers secrets de cette affaire dans son livre « L'affaire Brière, un crime insensé à la belle époque », édité en 2015 par la Biskine et réédité aux éditions Ella en 2022. Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire, Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaire sensible sur France Inter.
C'est un crime effroyable. Une véritable boucherie humaine, dont la vision a glacé d'horreur tous ceux qui, comme nous, ont pu contempler ce charnier, qui vient d'ensanglanter la paisible petite commune de Corençay. Ici même, la nuit dernière, cinq enfants ont été massacrés par le plus vil et le plus lâche des meurtriers. Le père, frappé de plusieurs coups de couteau, a failli partager leur sort. Ses blessures sont graves, extrêmement graves, mais les médecins affirment qu'il survivra.
Lundi 22 avril 1901, village de Corençay. Nous sommes à une dizaine de kilomètres au sud de Chartres, en pleine région agricole du plat pays de la France, la Beauce. Perdu au milieu d'immenses champs de céréales et de betteraves, Corençay et ses 250 habitants semblent tout droit sortis d'un roman de Zola. D'ordinaire, il ne s'y passe rien, ou pas grand-chose. La vie est rythmée par les saisons des cultures, loin du tumulte des grandes villes, loin aussi des affaires qui font la une de la presse. Mais aujourd'hui, un drame effroyable et sidérant bouleverse la vie de la petite bourgade. Les parcelles de culture sont désertes, les chevaux et leurs attelages restent dans les hangars, les volets des maisons sont fermés. Au café Saugé, les mines sont graves, les regards fuyants, les visages inquiets. Chemin des miniers, à la sortie du village, plusieurs dizaines de curieux, dont des journalistes, se pressent devant la ferme de la famille Brière. Deux gendarmes bloquent l'accès au niveau du portail. Vu du chemin, la ferme des Brières est une modeste maison en pierre. Elle est adossée à un petit corps d'étable où est stocké du matériel agricole. Au fond du jardin, une petite porte en bois permet d'accéder aux champs. Ici et là, des jouets d'enfants. Sous un soleil brûlant et dans un silence pesant, des hommes vêtus de costumes et venus de la grande ville procèdent avec autant d'inexpérience que de maladresse à l'expertise d'une scène de crime. Sur l'herbe, improvisée à la hâte, les gendarmes ont dressé une table d'opération. Présent sur place, le reporter du journal Le Matin raconte.
En plein air, sous les rayons du soleil, le docteur Dudefoy procède à l'autopsie des cadavres. Celui de la fille aînée est allongé sur la table, complètement nu. Le ventre est ouvert et le scalpel fouille les entrailles. Le crâne littéralement défoncé, les yeux embouillis, les cheveux collés par le sang qui souille le visage, les membres crispés dans un dernier spasme d'agonie, la pauvrette est examinée. Tandis qu'un brave gendarme recoue gauchement le ventre du petit frère dont on vient de finir l'étude.
Le long du mur de la ferme, trois autres corps sont alignés et attendent leur tour. Repliés, affaissés, les têtes déformées, écrasées, le visage en sang. Illustration de l'horreur qui s'est déroulée ici, la nuit dernière. Dans le village de Corancet, c'est l'incompréhension. Ici, tout le monde connaît les Brières, et bien sûr le père de famille, Édouard. Et tout le monde admire celui qu'on décrit comme un brave et honnête homme. Les témoins, pour l'instant, nous font grâce du sempiternel, un homme sans histoire, comme on l'entend dans tout fait divers, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ça va venir. À 42 ans, Édouard Brière est ce qu'on appelle un entrepreneur de battage. Comprenez, il propose ses services et son matériel aux autres paysans pour la moisson des champs. Il n'est ni plus riche ni plus pauvre que ses voisins, mais à la différence de ces derniers, il doit, à la force de son courage, élever seul ses 6 enfants. Oui, car 3 ans plus tôt, le drame a déjà frappé la famille Brière. La mère des enfants, Laurence, est morte, emportée par la maladie. Et depuis, l'une des filles, Germaine, celle de 14 ans, est partie vivre chez sa tante, à Paris. À la ferme, on trouve 5 autres frères et sœurs. Flora, l'aînée, 16 ans, qui avec Béatrice, 12 ans, toutes de bonnes élèves à l'école, s'occupe des tâches domestiques. Elle veille à ce que les plus jeunes, Laurent, 9 ans, Laure, 6 ans, et Célina, 4 ans, fassent leurs devoirs, leurs corvées, ne jouent pas trop tard avec les vaches dans les champs. Pour résumer, la famille Brière, malgré le deuil, c'est au village un père aimant, courageux et dévoué, des enfants sérieux à l'école, disciplinés et travailleurs. Alors, que s'est-il passé? Qui a donc pu vouloir s'en prendre à eux? Et surtout, pourquoi un tel acharnement? 5 enfants assassinés et un père de famille vraisemblablement poignardé, l'affaire est hors norme. D'abord pour les gendarmes, qui n'ont jamais vu une telle scène de crime et qui ne savent pas vraiment comment procéder. Pour la justice ensuite, qui n'a pas l'habitude de se déplacer à la campagne et qui ne connaît pas les codes des langages et la culture de la campagne. Et enfin pour les journalistes, qui se précipitent de toute la France pour couvrir l'événement. Résultat, la moindre découverte, la moindre rumeur, le plus petit détail sur la vie et la personnalité du père de famille, Édouard Brière, font la une de la presse. Tout comme le récit de la soirée du drame.
J'avais passé la soirée au café Sauger et rentré chez moi vers 11h30 lorsque je rencontrai un ami, Pierre Heurtaud, qui m'emmena chez lui boire un verre de vin. En sortant, je retrouvai un de mes camarades, Lubin. Ce dernier me reconduisit jusqu'à ma porte. À peine avais-je franchi le seuil qu'un individu de petite taille, vêtu d'un gilet d'ouvrier, se jeta sur moi et me porta plusieurs coups d'un instrument tranchant. J'essayai de parer les coups avec mon bras et parvins à saisir le malfaiteur à la gorge. Je l'aurais certainement étranglé si je n'avais été frappé par derrière, par qui ? Je ne le sais, puisqu'alors je me suis évanoui.
Voilà les derniers souvenirs d'Édouard Brière concernant cette nuit-là. La veille au soir, chemin des Miniers, aux abords de la ferme des Brières, il est environ 1h du matin lorsque les chiens du voisinage se mettent à aboyer. Ceux de la famille Baron d'abord, de la ferme des Bouvets ensuite. Dérangés par le bruit, certains habitants ouvrent leurs volets. Bon, rien de spécial. Au bout de quelques minutes, les plaines de la Beauce retrouvent leur silence. Et chacun aux alentours replonge dans son sommeil. Mais à 3h du matin, nouvelle alerte, les chiens recommencent à aboyer. Et cette fois, les habitants entendent des cris qui viennent du chemin. Réveillé en catastrophe, le père Bouvet entend alors la voix d'un homme qui hurle « À l'assassin, à moi, mes amis !» Il se précipite dehors et découvre à cet instant un autre voisin, Léon Baron, qui tente de porter secours à un homme étendu par terre. On apporte une lanterne et grâce à la lumière vacillante, les voisins découvrent que cet homme à demi-conscient, laissé pour mort au milieu du chemin, là, c'est Édouard Brière, leur voisin. Ses sabots et sa casquette sont retrouvés un peu plus loin. L'homme a le visage et les vêtements recouverts de sang. D'une voix à peine audible, il lance « Ils s'en sont pris à moi, ils ont tenté de me tuer. » Alors, sans perdre une seconde, Bouvet et Baron s'arment de gourdin. Ils se précipitent à la ferme des Brières pour voir si les enfants vont bien. Rien ne les a alors préparés à ce qu'ils découvrent une fois sur place. Car dès la porte d'entrée franchie, Bouvet et Baron sont les premiers témoins d'une scène épouvantable, comme ils le raconteront plus tard aux journalistes.
Dans la première des deux pièces, il distingue deux enfants morts sur leur matelas, la tête fracassée et à même le sol, un troisième corps recouvert par un amas de linge qui ne laisse dépasser que les pieds. Il découvre dans la seconde une fillette qui gît dans un lit ensanglanté, et dans la ruelle, le cadavre d'un jeune garçon. Les murs sont poissés de sang et d'éclats de cervelle. Bouvet s'enfuit, épouvanté, et la femme baron qui rejoint le blessé à demi-conscient gémit. « Pauvres enfants, tout est mort, tout est tué !»
Au petit matin, le village de Corrence se réveille sous le choc. Le massacre de la famille Barrière est sans doute dans toutes les conversations. Qui a pu commettre un tel acte? Un rôdeur? Un aïené? Et si le ou les meurtriers étaient encore dans les parages, prêts à frapper de nouveau? Alors les habitants se barricadent chez eux. On sort les fusils, les enfants sont cloîtrés. Et à l'exception du café Saugé et de la mairie, Corrence bascule dans la psychose d'un tueur fou qui rôde. Pour le juge et les enquêteurs, venus spécialement de Chartres, la piste qui semble la plus plausible au départ est celle d'un crime crapuleux qui aurait très mal tourné. Et plusieurs éléments vont dans ce sens. Il y a d'abord les déclarations d'Édouard Brière, le survivant, le rescapé du massacre. Au gendarme, il affirme que le ou les individus qui s'en sont pris à lui, lui ont dérobé son portefeuille dans lequel se trouvaient 1500 francs. Une somme énorme pour l'époque, et surtout pour un agriculteur. En euros, aujourd'hui, en tenant compte du changement de valeur et de l'inflation, cela en représente presque 7000. Pourtant, très vite, la piste du vol avec violence paraît peu réaliste. À l'intérieur de la ferme, en effet, tiroirs et commodes ont bien été ouverts, comme fouillés, et d'autres meubles ont été renversés. Quelqu'un semblait donc chercher quelque chose. Mais plusieurs objets de valeur présents dans la maison n'ont pas été dérobés. Pire, l'un des gendarmes retrouve de l'argent dans un tiroir de la chambre. Le ou les auteurs du crime auraient donc oublié sur place une partie de leur butin. Les magistrats étudient alors la piste d'une possible vengeance. Interrogés, les voisins affirment que Brière n'avait pas d'ennemis, ni de dette de jeu. Le père de famille ne buvait pas plus qu'un autre lorsqu'il allait au café, et il ne s'est jamais retrouvé dans une bagarre ou autre conflit. Personne ne lui connaissait de querelle avec qui que ce soit. Dans les heures qui suivent, la maréchaussée retrouve le cadavre du chien de la famille près du hangar de la ferme. Une preuve de plus que dans cette affaire, le ou les meurtriers se sont acharnés sur tout ce qui se trouvait sur leur chemin, tout, sauf Édouard Brière. Aux enquêteurs, puis aux journalistes, les habitants de Corrence prennent parti pour le père de famille, qu'ils décrivent comme un homme modèle qui, malgré le décès de sa femme, fait tout ce qu'il peut pour prendre soin de ses enfants.
Dans le pays, on croit que ce sont des cheminots employés par Brière lors de la dernière moisson qui ont perpétré ce forfait, qui rappelle pour beaucoup un autre crime commis il y a quelques mois dans le département de l'Eure. En tout cas, ceux qui ont commis ce quintuple assassinat que tout indique comme froidement prémédité, sont des monstres et l'on se demande comment ils ont eu le courage de frapper, les uns après les autres, ces cinq enfants profondément endormis. Malgré les plus minutieuses investigations, les magistrats du parquet de Chartres, contrairement au bruit qui en a couru, n'ont relevé aucun indice, aucune trace permettant d'orienter les recherches dans une direction quelconque. Et cependant, un tel crime ne peut rester impuni.
En ce début de siècle, la médecine légale n'en est pas encore là où elle en est aujourd'hui, bien sûr, elle n'en est qu'à ses balbutiements. Un morceau de tissu taché de sang, une empreinte de chaussure, tout cela ne permet pas vraiment d'accuser un suspect ou de désigner un coupable. Ce sont des indices, certes, mais qui ne parlent pas sur le plan scientifique comme ils pourraient le faire aujourd'hui. Conséquence ? Dans le cas de l'affaire Brière, la première véritable avancée de l'enquête n'est pas matérielle, non. On la doit au compte-rendu du médecin qui examine le père de famille, seul rescapé du massacre. Aux voisins, puis aux enquêteurs, Brière, on l'a dit, prétend avoir été agressé par surprise, puis poignardé, enfin assommé, en gros laissé pour mort. Seulement voilà, le diagnostic du médecin fait planer un sérieux doute. Après examen et nettoyage des plaies, Édouard Brière ne souffre en réalité que de quelques coupures superficielles qui, malgré leur longueur, ne sont pas très impressionnantes. comme si son ou ses agresseurs avaient plutôt cherché à le mutiler qu'à le tuer. Une situation qui contraste avec l'acharnement dont ont été victimes les enfants. Second élément qui remet en doute le témoignage du père. Les gendarmes découvrent sous un tas de fumier une veste tachée de sang. C'est celle d'Edouard. Lui prétend qu'il s'agit du sang de lapin. Les enquêteurs, eux, sont persuadés qu'il s'agit de sang humain. Avec tout ça, et moins de 48 heures après le drame, Édouard Brière, le rescapé, devient aux yeux des enquêteurs le principal suspect du quintuple infanticide. Le soir même, la nouvelle fait la une de toute la presse nationale, comme ici, dans les colonnes du journal Le Figaro.
Coup de théâtre inattendu. Après de nombreuses péripéties, le parquet de Chartres vient d'inculper le père Brière de l'assassinat de ses enfants. Est-il coupable de cet horrible forfait qui déconcerte la raison et soulève l'horreur? L'avenir nous le dira. Il est certain en tout cas qu'il existe contre lui de graves présomptions. C'est pour cette raison que les gendarmes l'ont arrêté et placé en détention. Les prochains interrogatoires seront décisifs pour sceller ou non son sort. À Corrençay, encore sous le choc, l'annonce de l'arrestation d'Edouard soulève une vague d'incompréhension.
Je suis retourné haut, corde ferme à l'abandon. Je suis entré dans l'étable, noir, les poutres tenaient bon. Tenaient le plafond éventré, les planches d'avant-guerre, la première. Siècle des nuits, nuit des siècles. C'était si vieux ici, depuis toujours. Si haut les arbres enserrant la ferme, si fleuri le jardin au centre de la cour, encore fleuri, comme quand des gens vivaient ici. Comme quand des gens vivaient ici. Et si haute la peur, qu'enfant, on jouait à réveiller. L'après-midi dans le grenier immense de la maison du fermier. Le fermier qui avait l'air si gentil et qui passait ses nerfs sur ses vaches, sur ses fils et sur le commis. Le commis qui vivait au-dessus de l'étable comme en 1900. Sa silhouette torse nu à la fenêtre le soir dans la lumière blanche de l'ampoule au plafond de sa chambre. Et au bout d'une allée, longeant le jardin clos derrière chez les fermiers, il y avait le château. Et les bêtes empaillées dans l'entrée bleu pâle, un renard et un cerf. Et en face, l'étang, au bout d'un champ en pente douce, comme un répit dans l'épaisseur des lieux. À l'écart, l'écurie, et ses secrets palpables et ses lignes franchies. Les non-dits enroulés dans l'obscurité des murs sales, en paquetage de ce qu'on sait, de ce qui ne se dit pas, pour toujours, et suinte de partout, et se transmet, dans un grand silence entendu. Ça puait le secret, la chair sous la contrainte, la perpétuation du mal, moisson d'éternité qu'il faut engranger, vaille que vaille. Et que ça pue, plaisait aux gosses que nous étions. C'était bien pour la peur, l'inquiétude, ce qui montait dans le grenier jusqu'à la maison du fermier. Ça nous électrisait. La maison du fermier, le grand jardin clos, le grenier, le château, l'écurie, et les secrets par milliers répandus dans la cour. Sans âge, débordant de partout, affreux, congestionné. Quand je suis retourné au corde ferme à l'abandon, la peur était intacte. Les lieux criaient pitié, et même en plein jour tout hurlait, et se jetait sur vous. Je suis sorti dans l'effroi de l'étable,
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, 5 enfants assassinés. L'énigme de Corancet.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Village de Corancet, Eure-et-Loire, 12 mai 1901. Chemin des Miniers, dans la ferme de la famille Brière. Les jours passent et l'enquête continue. Mais sur place, les acteurs ne sont plus les mêmes. Les gendarmes ont peu à peu laissé leur place aux journalistes, dont une grande partie est arrivée quelques jours plus tôt de Paris.
Chacun connaît le drame atroce de Corancet. 5 pauvres petits-enfants égorgés. Leur père trouvé blessé auprès d'eux et racontant une histoire de cheminot assassin. Puis ce même homme arrêté sous prévention du meurtre de ses propres enfants. Aujourd'hui, on découvre qu'Édouard Brière, veuf et père de famille, aurait voulu épouser une jeune fille et que celle-ci lui aurait déclaré qu'elle ne prendrait jamais un mari qui avait tant d'enfants. Sur ce point, les opinions se divisent en 2 camps, ceux qui accusent violemment le cultivateur et ceux qui le soutiennent avec énergie. Pendant ce temps, l'enquête continue.
Dans le jardin, des illustrateurs dressent les premiers coups de crayon du théâtre de ce crime qui passionne tant l'opinion. Voilà plus de 2 semaines que l'affaire de Corancet a pris une ampleur nationale. Alors, à la capitale, les grands patrons des salles de rédaction veulent des anecdotes, des images, des ragots, des rumeurs, enfin, tout ce qu'il faut pour tenir le grand public en haleine. Alors les reporters, dont certains sont des habitués de la chronique judiciaire, prennent à leur tour le costume d'enquêteur. Ils fouillent, font de nouvelles hypothèses et autant de déductions. Bon, souvent c'est un peu alambiqué, mais parfois, ça tiendrait presque la route. Entre-temps, il y a les funérailles, auxquelles Édouard Brière ne peut pas assister, emprisonné qu'il est. Plus de 500 personnes venues de toute la région sont venues se recueillir devant les 5 cercueils des enfants, avant qu'ils ne soient descendus dans la tombe de leur mère. La scène est insoutenable. Plusieurs dames s'effondrent, rapporte un journaliste.
Les 5 petits martyrs sont conduits à leur dernière demeure. Si le spectacle des pauvres petits corps tuméfiés, horrible à voir, était hier répugnant, horrible à contempler, l'aspect de ces 5 cercueils construits à la hâte, depuis le grand où Flora, l'aînée, était enfouie, jusqu'au cercueil minuscule de la petite Geneviève, étreint le cœur d'une émotion poignante. Pauvres petits enfants. Hier soir, ces petits corps étaient encore étendus, côte à côte et nus dans l'étable. Seul un minuscule bouquet de pensées, de violettes et de marguerites entouré de papier d'écolier avait été déposé. Au milieu de ces 5 grossières caisses fabriquées à la vapeur par le menuisier et le charron du pays, sans doute par une amie d'école des victimes.
Au terme de cette journée terrible, chacun veut que justice soit rendue, quel que soit le coupable, quel que soit le motif. Et, si c'est Édouard Brière, il doit payer pour son crime. C'est en tout cas ce que pense une grande majorité de l'opinion et des habitants de Corancet. Du côté de l'enquête, 2 rebondissements viennent balayer la piste du vol ou du crime crapuleux. Sous du terreau, les gendarmes retrouvent une coutre de charrue, sorte de longue lame tranchante qui sert à retourner la terre. L'objet est recouvert de sang et pourrait être l'arme du crime. Deuxième découverte, encore plus troublante. Dans une fente du mur extérieur de la ferme, les gendarmes mettent la main sur le portefeuille d'Édouard Brière, son argent encore à l'intérieur. Interrogé, celui-ci donne toujours la même réponse. Il faisait noir cette nuit-là, il n'a rien vu, et le coup qu'on lui a porté à la tête lui a fait perdre la mémoire. Voilà, c'est tout. Édouard Brière évoque même un coup monté, une machination. Ce que les enquêteurs ont du mal à croire. D'autant que les jours suivants, la presse se fait l'écho d'une rumeur qui place Édouard Brière dans une situation encore plus délicate. L'existence d'une maîtresse. Une piste jusqu'alors négligée par les enquêteurs, mais qui, pour certains témoins, fournirait la clé du drame. Brière aurait voulu faire table rase de son passé pour recommencer cette vie avec cette femme.
On ne tue pas 5 enfants sans mobile. Et il me semble que, si criminel que l'on puisse être, on doit d'autant plus hésiter, et le mobile doit d'autant plus apparaître, quand les victimes qu'on se propose de mettre à mort sont vos propres enfants, la chair de votre chair. Alors, Pourquoi Brière a-t-il tué ? Mystère. Parce qu'il courtisait une voisine ? Elle était sa maîtresse 2 ans déjà avant la mort de Madame Brière. Et elle l'a même été après, c'est certain en tout cas.
De l'identité ou de l'apparence de cette mystérieuse maîtresse, on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Seules persistent des rumeurs, comme d'habitude. Il faut attendre le procès 6 mois plus tard, en décembre, pour que la lumière soit faite sur l'identité et le rôle de cette femme. Ce procès, justement, toute l'opinion l'attend. Les habitants de Corancé, mais aussi et surtout les journalistes qui veulent voir et entendre Brière. Car dans cette affaire, depuis le départ, il y a quelque chose qui cloche. S'il existe des indices accablants et un faisceau de présomptions qui pointent tout droit vers Édouard Brière, il n'y a en revanche aucune preuve directe contre lui. Il n'a pas avoué, la justice ne dispose d'aucun témoin, et puis, même si cette considération est plus fragile, comment un homme décrit comme un bon père pourrait-il se transformer en l'espace d'une soirée en monstre, hein ? Le problème, c'est que ça s'est déjà vu. En tout cas, beaucoup espèrent que le procès apportera des réponses. Il s'ouvre 6 mois plus tard devant la cour d'assises de l'Eure-et-Loire. le 16 décembre 1901, palais de justice de Chartres. Voilà plusieurs jours que la capitale de la Beauce vit au rythme de l'affaire Brière. Un dossier criminel monstrueux qui tient encore et toujours la presse en haleine. Et malgré un vent froid et des températures proches de zéro, plusieurs centaines de personnes patientent en silence depuis le lever du jour à l'extérieur du tribunal. Parce que chacun veut une place, chacun veut voir, entendre ou approcher l'accusé. À commencer par cette armée de journalistes venus de Paris et des grandes villes. Tout le monde a entendu parler d'Édouard Brière et beaucoup de curieux viennent aujourd'hui au tribunal pour voir de leurs yeux voir le monstre qui a assassiné sauvagement 5 de ses enfants. Beaucoup d'attentes donc, et finalement un peu de déception. Car lorsque les gendarmes font entrer Édouard Brière dans le box des accusés, le cultivateur de 42 ans fait peine à voir. Difficile de l'imaginer défonçant les crânes de ses enfants gourdins avant de les poignarder.
Comme aspect général, Brière est indéfinissable. Il a à la fois l'apparence d'un homme d'église, d'un cocher ou d'un artiste de café-concert. Brière a 42 ans. Il en porte bien 50. Sa tenue est des plus correctes. Il est vêtu d'une jaquette et d'un pantalon de drap noir. L'accusé, on l'a vu d'après le portrait que nous donnons de lui, a le visage entièrement rasé. L'œil, petit, rond et très noir, est profondément enfoncé sous l'arcade sourcilière. Le front est large, proéminent et légèrement dénudé sur les tempes. Brière a le nez fin et légèrement épaté. La mâchoire intérieure est très développée. Ses lèvres sont minces et sa bouche pincée, ce qui donne à son visage une expression de dureté qu'augmente encore 2 rides profondes qui courent le long de ses joues amaigries.
La première audience s'ouvre sur la reconstitution, minute par minute, de la nuit du crime. On presse Brière de s'expliquer. On espère un aveu, des remords, mais rien. Au contraire, l'accusé tente même d'interrompre le médecin légiste qui affirme à la barre que lorsqu'il a examiné le père de famille, le lendemain des meurtres, il n'a trouvé sur son corps aucune blessure grave. Alors quoi ? Brière a-t-il été épargné ? S'est-il automutilé ? Les juges, le jury, l'avocat général, personne n'obtient l'explication tant attendue. Une chose est sûre, en revanche, tout au long des débats, l'avocat général se montre intraitable. À plusieurs reprises, sa voix claque dans le prétoire. Il entend bien prouver que le père de famille est coupable. Et plusieurs éléments vont dans son sens. Il y a d'abord la veste tachée de sang, cachée sous du fumier. Il y a ensuite la coutoire, l'arme du crime, retrouvée sous du terreau. Et puis le portefeuille de Brière, avec l'argent dissimulé dans un mur de la ferme. La boucle est bouclée. Pour l'avocat général, tout ramène à lui. Pourquoi chercher ailleurs ? Mais soudain, événement à la barre. Les voisins, le couple Barreau, puis le couple Lubin, Ceux-là même qui avaient défendu Brière avec véhémence au début, eh bien désormais, ils l'accablent. Des doutes, ils en ont toujours eu, lance-t-il. Des dettes, Brière en avait. Dans les instants qui suivent, le tribunal découvre, surpris, la maîtresse d'Édouard Brière, une certaine Véronique Lubin. Oui, surpris, car on est loin de la manipulatrice vénale que beaucoup imaginaient, et surtout loin des descriptions rocambolesques parues dans la presse. Physique négligée, réponse confuse, absence de charisme, Véronique Lubin n'est qu'une personne modeste de la campagne, qui semble bien incapable d'avoir échaudé avec son amant un plan diabolique pour se débarrasser de 5 enfants. Pour autant, son apparition à la barre fait s'effondrer l'image du bon père de famille d'Édouard Brière. Puisque cette femme est sa maîtresse, on sait maintenant qu'il trompait sa femme, et cela depuis plusieurs années. Acculé, l'accusé devient silencieux, ce qui pour la presse vaut aveu. Au terme d'une semaine d'audience, les journalistes et le public doivent se rendre à l'évidence, malgré la très forte présomption, malgré les brûlantes théories relayées jusque-là dans les grands quotidiens du pays, les charges sont faibles contre l'accusé, faute de preuves, encore et toujours. Le 24 décembre, la veille de Noël, le verdict tombe. Dans la salle d'audience du tribunal de Chartres, on imagine le coup près tranchant de la guillotine. Quelques instants plus tard, on croit même l'entendre résonner. Cette fois, ça y est, les dés sont jetés. On va être fixé sur le sort d'Édouard Brière.
Il est exactement 6h15 quand les jurés reviennent de la salle de leur délibération. Leur conviction était faite, car ils ont eu tout juste le temps nécessaire pour voter sur les 28 questions auxquelles ils avaient à répondre. Le chef des jurés se lève. Et au milieu d'un silence véritablement saisissant, donnent connaissance à la cour de leur décision. Les curieux sont tellement attentifs qu'ils en retiennent leur respiration. Une voix émue, la main tremblante car on voit s'agiter la feuille qu'il tient entre ses doigts, le chef du jury, un sexagénaire, laisse tomber un « oui » implacable. Un instant, il s'arrête, chacun est anxieux. Y a-t-il des circonstances atténuantes ? Il n'en est pas accordé, car le chef du jury n'en souffle mot et passe la feuille à l'huissier qui la remet à la cour. C'est donc la mort. Tout le monde tourne son regard vers la porte. Quand le président donne l'ordre d'introduire l'accusé, celui-ci est très pâle. C'est-il déjà la fatale sentence ? Le greffier lui donne lecture du verdict.
Malgré la condamnation d'Édouard Brière, l'affaire du drame de Corrence est loin d'être terminée. En l'espace de quelques semaines, en effet, elle se transforme en un duel idéologique national par voie de presse, ravivant le clivage radical que la société française avait connu quelques années plus tôt lors de l'affaire Dreyfus. D'un côté, on trouve le camp des progressistes et la Ligue des droits de l'homme. Craignant une erreur judiciaire, ils font pression sur l'opinion et les responsables politiques. De l'autre, les conservateurs, qui eux exigent l'exécution à titre d'exemple. Et comme dans le cas du capitaine Dreyfus, Brière se retrouve caricaturé, dessiné en une des journaux, rarement dans des postures à son avantage. Quelques semaines après le verdict, au mois de février 1902, c'est dans un climat de forte tension que le président de la République, Émile Loubet, accorde la grâce à Brière, qui échappe à la guillotine et était condamné à mort, direction l'horreur, le bagne en Guyane. Loin de calmer les esprits, cette décision provoque un tollé. Les anti-dreyfusards y vont à nouveau au coup de la Ligue des droits de l'homme pour déstabiliser la justice. Comme si le bagne n'était pas une sanction d'une violence inouïe. Là encore, dans la presse, les références au capitaine Dreyfus se multiplient. En enfer, dans la jungle guyanaise, Brière continue de clamer son innocence. Mais l'espoir renaît chez ses soutiens en 1909, lorsqu'un journaliste évoque la possibilité d'une révision du procès grâce à l'analyse d'empreintes digitales retrouvées sur la scène du crime. Problème, les traces en question sont partielles et en mauvais état. Impossible de les comparer aux empreintes d'Édouard Brière ou même de ses voisins. Un an plus tard, en 1910, Brière meurt à l'hôpital de Cayenne. Dans la presse de l'époque, certains journalistes rapportent que la tête du prisonnier a ensuite été conservée dans un bocal de formol. Bienvenue au pays des droits de l'homme.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Brière, le fait divers le plus médiatisé de la belle époque. Notre invité Alain Denizet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, conférencier, écrivain. Vous avez tenté de percer les derniers secrets de cette affaire dans votre livre « L'affaire Brière, un crime insensé à la belle époque » aux éditions de la Bisquine, puis réédité aux éditions Ella en 2022. Vous êtes également président du prix littéraire du manuscrit de la Beauce et du Dunois. Nous y reviendrons en fin d'interview. D'abord, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur cette affaire Brière ?
Mais écoutez, je travaillais sur un livre qui s'appelle « Enquête sur un paysan sans histoire », sur un paysan de Beauce du 19e siècle. Et pour recontextualiser le livre, j'ai étudié un almanach, le messager de la Beauce et du Perche, d'obédience catholique, très conservateur, la ligne éditoriale, pas de faits divers, pas d'affaires de mœurs. Et sur les 64 ans d'existence de cet almanach, il ne parle que d'un fait divers, l'affaire Brière. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé à cette affaire, que j'ai tiré les fils et vu que c'était une affaire exceptionnelle.
Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel à vos yeux ? Alors il y a un petit peu la réponse et dans le récit qu'on vient de raconter, mais enfin pour vous, qu'est-ce qui vous a frappé ?
Le crime, un père accusé, condamné à mort pour avoir tué ses 5 enfants, je ne vois pas d'autre exemple dans les annales judiciaires, premièrement. Deuxièmement, les connexions politiques que vous avez évoquées avec l'affaire Dreyfus, je les ignorais au départ, elles sont tout à fait étonnantes. L'affaire Brière met en péril la justice du pays puisque certains veulent contester le verdict. Il y a le mystère.
Oui, bien sûr, Brière, on sait toujours pas finalement.
Brière a été condamné, mais lui a toujours, jusqu'à son dernier jour, clamé son innocence. Alors, coupable ou innocent ? Et puis enfin, le déferlement médiatique extraordinaire. Jusqu'aux États-Unis, il y a eu des articles dans les colonnes du New York Times, par exemple. Donc, quatre raisons qui font pour moi que c'est une affaire tout à fait exceptionnelle.
Alors, coupable ou innocent, mais quand même condamné à mort, puis gracié, on l'envoie au bagne, ce qui vaut guère mieux. On prend à revers la maxime de Voltaire, je crois. Mieux vaut condamner un... Laisser partir un coupable en liberté plutôt que de condamner un innocent. Voilà. Mmh. Et là, on est dedans. Quoi. On n'a pas de preuves, mais il est condamné à la peine la plus forte.
Alors, il y a un faisceau quand même qui éclaire très fort. Brière, vous en avez cité quelques-uns. Le plus fort, c'est que les agresseurs de Brière auraient tué 5 enfants et ils auraient laissé vivant le seul témoin. Lui, Brière, qui les a décrits. Il y a un autre élément que je me permets de signaler, c'est que une commode a été ouverte avec une clé. Elle n'a pas été forcée, la commode. Or, la cachette de cette clé, c'était dans une poupée. Qui pouvait connaître cette cachette-là ? Brière seul. Donc il y a d'autres éléments en fait, qui vont dans le sens de la culpabilité de Brière, mais il n'y a pas de preuve irréfutable.
Alors si vous aviez été juré, vous ? Alors vous avez dit, mais pensez, hein, comment le livre, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, en tant que juré ?
Bien, je ne répondrai pas à la question, parce que dans le livre, je ne donne pas mon sentiment, j'ai une intime conviction, mais je ne la donne pas.
Bon, même si j'insiste.
Oui.
Alors, j'insiste pas. L'une de vos sources principales, c'est la presse d'époque, hein, dont on a pu entendre quelques extraits lus pendant le récit. Justement, vous terminiez tout à l'heure votre argumentaire sur les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser à cette affaire. Et le quatrième argument que vous donniez, c'était la presse. Alors, développez ça. Qu'est-ce qui vous a interpellé ?
Alors, la presse, elle joue un rôle très important. D'abord, elle joue un rôle d'enquêteur. Il y a des journalistes, celui du Gaulois rentre dans la ferme le jour où on découvre les corps, il pénètre dans la maison et il découvre la cachette où était la masse qui a assassiné le chien Ravachol. Donc c'est pas les gendarmes qui découvrent, c'est un journaliste.
Le chien s'appelait Ravachol.
Il s'appelait Ravachol, non, c'est le célèbre anarchiste.
Bah oui.
Ensuite, les journalistes font ce que le juge d'instruction a très peu fait, c'est-à-dire s'intéresser à la personnalité de Brière, j'allais dire à sa psychologie. Donc ils font des enquêtes auprès de ses amis d'enfance, de sa famille, de ses voisins, etc. Ensuite, la presse s'empare du côté émotionnel. On publie dans la presse, tous les journaux publient, les lettres que Brière adresse à sa fille et les réponses que Germaine, la rescapée du massacre, comme on l'appelait, adresse à son père. Donc, en quelque sorte, la presse, elle humanise Brière avec ses relations avec sa fille. Et puis, il y a un autre rôle là, qui concerne spécifiquement la presse d'Eure-et-Loir, c'est que la presse d'Eure-et-Loir, elle est anti-Briérard, parce qu'il y avait les Briérards d'un côté et les anti-Briérards de l'autre.
Comme Dreyfus, hein.
Comme Dreyfus, exactement. Et donc, il était inimaginable de penser que la presse n'a pas influencé le jury. D'ailleurs, beaucoup ont contesté le fait que la faire se juger par la cour d'assises de Chartres, elle aurait aimé qu'elle soit transportée dans un autre département.
Justement, puisqu'on parle de département, l'Eure-et-Loire était déjà un département de droite, avec les céréaliers. C'est connu, quand même.
Radical. Plutôt radical. Les députés, ce sont des radicaux socialistes.
Radicaux de gauche, d'accord.
Oui.
Bon.
Une gauche modérée.
Ouais, ça a changé après. Hein. Alors, il n'y a pas eu d'études psychiatriques, je crois, concernant Brière. Si oui, pourquoi ?
Il n'y en a pas eu. Ouais. Les juges d'instruction ont la possibilité de faire appel à des médecins aliénistes pour examiner la psychologie du personnage. Mmh. Elle n'est pas obligatoire. Elle va être obligatoire à partir de 1905, la circulaire Chaumier, donc 4 ans avant l'affaire Brière. Et puis Brière, pourquoi faire une étude psychologique ? Il présente toutes les apparences d'un homme très normal. On l'a vu la veille de l'assassinat. Porter la petite Célina dans ses bras. Jamais il ne frappe ses enfants. Il est respecté, il les éduque très bien, ils réussissent très bien à l'école, comme vous l'avez dit, ils ont le certificat d'études pour les 3 premiers.
Ce qui, à l'époque, est beaucoup.
Et bien sûr, puisque les instituteurs ne présentent qu'un tiers des élèves. Et il y a la petite Béatrix qui a 10 ans, elle s'apprête à passer avec 2 ans d'avance le certificat d'études des enfants modèles.
France Inter. Affaire sensible.
Alain Denizet, continuons juste sur la presse. Alors bien sûr, elle réussit à intéresser beaucoup de gens à cette affaire, mais beaucoup de gens s'y intéressent naturellement. Je crois que les ventes de journaux explosent. Non,
c'est le summum de la presse écrite. Hein. 10 millions de journaux sortent des presses chaque jour. Le Petit Parisien,
ça fait rêver
le monde ou le Figaro. Hein. Oui. Le Petit Parisien, le petit journal font plus d'un million d'exemplaires. Le Matin, que vous avez cité, fait plus de 600 000 exemplaires. Donc on sait que l'affaire Brière, elle est lue par tout le monde. Chacun son hypothèse, naturellement. Mmh. On sait même qu'elle a été lue par des cheminots, des vagabonds. Puisqu'il y en a un qui s'est accusé d'être l'auteur du quintuple assassinat, il a donné des détails étonnants. Il dit, comment vous savez ça ? Regardez les journaux, on s'y intéressait, etc. Mmh. Donc c'est vraiment une affaire qui a passionné la France entière et l'Europe également.
Alors on considère Brière comme coupable, il est condamné. Enfin sur le mobile, on se pose des questions quand même.
Il n'y a pas de mobile.
Il n'y a pas de mobile, puisqu'il... Voilà.
Il n'y a pas de mobile. Et c'est la raison pour laquelle la Ligue des droits de l'homme, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuve irréfutable. Ça fait quand même beaucoup pour condamner un homme à la guillotine. Le mobile tombe lors du procès, vous l'avez très bien dit.
Bah oui.
Véronique Lubin, elle dit non, j'ai jamais eu l'idée de me marier avec Brière pour qu'il tue ses 5 enfants, ça n'a pas de sens. Donc il n'y a pas de mobile. C'est un argument très très fort justement pour la grâce présidentielle.
Et bien sûr. Alors, y a-t-il eu d'autres hypothèses que celle incriminant Édouard Brière ? Quelqu'un d'autre ?
Au début, oui. On a cherché les vagabonds.
Ouais.
Brière avait
crime de rôdeur, quoi.
Un crime de rôdeur où Brière était patron d'une entreprise de battage. Il embauchait 8 personnes. Il les avait oublié de les payer ou il a oublié de leur donner à manger. Bref, une vengeance terrible. Donc, on a cherché du côté des vagabonds pendant quelques jours. Il y en a une cinquantaine qui ont été interrogés. Certains avaient la main en sang parce qu'ils s'étaient échappés d'une maison et le carreau avait cassé, etc. Mais rien de sérieux. En fait, après plusieurs jours d'enquête, elle s'est concentrée sur Édouard Brière. Mmh.
Mais si l'ADN avait existé.
Ah.
Évidemment. D'ailleurs, je dis ça parce que tous ces indices et ces objets qu'on retrouve à différents moments, à différents endroits de la ferme, est-ce que les gendarmes ont mal fouillé parce qu'on a retrouvé des objets après ou certains objets auraient-ils pu être ajoutés par la suite ?
Alors, je vais juste revenir sur l'ADN. Évidemment, oui. Ça n'existait pas, mais il y avait déjà les empreintes digitales.
Ouais.
Il y avait des empreintes digitales sur certaines des pièces. Elles n'ont pas été utilisées. Le juge d'instruction lui a préféré des analyses de sang pour déterminer si le sang était d'origine humaine ou animale.
Oui.
Et le premier crime qui est élucidé grâce aux crêtes papillaires, c'est en 1902, un an après l'affaire Brière. Alors les objets qui ont été retrouvés, il y en a qui sont trouvés le lendemain ou le surlendemain du quintuple assassinat, le gilet, le couteau, la masse qui a servi à tuer Ravachol, et puis d'autres qui sont trouvés 3 semaines après, au milieu du mois de mai.
Ouais.
Et la défense de Brière, c'était de dire, voilà, le village commence à se retourner contre moi, ce sont mes voisins, Lubin, dont la fille est la maîtresse.
Et oui. C'est, ouais. C'est le mari jaloux ou pas ?
Bah, c'est le père. C'est le père. Lubin, c'est le père. Le papa, ouais. Il se dit, voilà, ma fille a été avec un criminel, donc ouais. Il se vengerait en mettant des indices très compromettants pour Brière. Donc, le coutre retrouvé sous le tas de terreau, et puis le petit portefeuille dans le mur.
Et cette Véronique Lubin, elle était mariée déjà ? Elle était avec quelqu'un ?
Non, elle était célibataire. Elle
bon, donc, il n'y a pas de mari jaloux, quoi.
Non, pas du tout.
Alors, sur le procès, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que certains journaux d'époque affirment que le juge et l'avocat général étaient tous deux convaincus de la culpabilité de Brière avant même l'ouverture du débat. Est-ce que ça veut dire que le procès était joué d'avance, comme ça peut se voir parfois ?
C'est un procès inique, il faut le dire. Tous les observateurs l'ont noté. Le juge Bella, qui préside, est très partial. Il outrepasse son rôle puisqu'il se met presque à la place de l'avocat général. Il condamne Brière, il se moque de lui, il l'interrompt quand il parle. C'est donc un combat inégal. D'un côté, le bretteur de la parole et de l'autre côté, Brière qui est un taiseux, qui est un paysan qui ne sait pas parler devant un public. Oui. Donc le procès a été inique, c'est certain. Et en plus, Brière n'a pas eu de chance. Parce que la famille avait délaissé l'avocat Chartrain, qui était, selon elle, incapable, et elle a choisi un avocat parisien, la moustache en guidon, quelqu'un qui allait tout renverser sur la table, et sa plaidoirie est une cohue de mots éperdus pendant une heure et demie, il se ridiculise, et tout le monde a noté que cette plaidoirie était vraiment ratée. Qu'elle avait desservi Brière, et même le juge Bella, lorsqu'il a fait son rapport au ministre de l'Intérieur, a signalé combien la défense avait été mauvaise, c'est dire.
Alors ce procès, on le qualifie, enfin ce procès, cette affaire, le plus grand fait divers de la belle époque, il y a eu aussi l'affaire Soleillant, ou Soleillande, oui. Ça finit avec un D, A-N-D, que nous avons raconté, alors qui a eu des conséquences incroyables, politiques, fait divers, puissants, celui-là, vous le connaissez bien sûr.
Je connais l'affaire Soleillant, bien sûr, et il y a quelques points communs entre l'affaire Soleillant et l'affaire Brière, ouais. D'abord, Soleillant s'est attaqué à des enfants, comme Brière a été accusé de le faire. Ensuite, il y a eu un débat sur la peine de mort à la suite de Soleillant. Il y a eu aussi un débat sur la peine de mort à l'Assemblée nationale après l'affaire Brière, en 1902.
Ouais.
Et troisièmement, Soleillant et Brière se sont vus.
Parce que Aubagne ?
Eh bien sûr. Et bien sûr, à l'Île-Royale, Brière est infirmier à l'hôpital et Soleillant est chargé, lui qui a tué une petite fille, il est chargé de l'entretien du cimetière des enfants.
Eh bien, dites donc. Soleillant, à cause de qui la peine de mort n'a pas été abolie en France, alors que le président Fallière, hein, c'est ça ?
C'est ça,
avait trouvé une majorité pour abolir la peine de mort.
Exactement.
Le pouvoir en place n'était plus en situation de l'abolir à cause de l'affaire Soleillant. C'est pour ça que je parle de faits divers puissants. Merci infiniment, Alain Denizet, pour tous ces éclairages, ces précisions sur cette affaire sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Merci, au revoir.
Merci, vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Brière, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.